Il est tout juste 13h à Paris, 19h à Bangkok. Bienvenue dans RFI Midi.
Olivier Sherman.
Plus de 1000 morts et des milliers de blessés en Birmanie. C'est le bilan encore provisoire et sûrement très sous-évalué du puissant séisme qui a secoué l'Asie du Sud-Est hier matin. Jamais un séisme d'une telle intensité n'avait frappé la Birmanie depuis des décennies. L'aide internationale s'organise et les secours pour retrouver des survivants et aider la population en détresse commencent à arriver sur les zones sinistrées. Le point dans ce journal avec Carole Izzo. Une foule immense se rassemble en ce moment à Istanbul à l'appel de l'opposition pour dénoncer l'arrestation de leur chef, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, et la répression qui continue de s'abattre sur les protestataires. Dans quelques instants, vous pourrez entendre la colère et les revendications d'un manifestant. 14 secouristes du Croissant-Rouge palestinien manquent à l'appel à Gaza depuis une semaine. Cela fait 8 jours qu'ils n'ont pas donné de nouvelles. Leur véhicule aurait été la cible de tirs israéliens, nous expliquera Amira Swilem. Enfin, les entreprises françaises sommées par les États-Unis de renoncer à toute forme de discrimination positive. Une lettre officielle a été envoyée dans ce sens aux sociétés françaises si elles veulent continuer à travailler en Amérique. Un courrier qui fait réagir Paris nous expliquera Claire Fage.
RFI, Le Monde à midi.
En Birmanie, donc, un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé le pays hier. Le bilan serait d'un millier de morts, mais risque de s'alourdir. Les villes de Mandalay, le deuxième centre urbain du pays, et de Sagaing ont subi de lourdes destructions. Au moins une centaine de personnes sont toujours coincées sous les décombres. Hier, le chef de la junte militaire a lancé un aide à l'appel international. Carole Izzo, bonjour.
Bonjour.
Alors, certains pays ont déjà répondu à l'appel.
Oui, ce sont d'abord les puissances asiatiques qui ont répondu à cet appel inédit à l'aide internationale lancé par le chef de la junte militaire, le général Min Aung Hlaing. Au premier rang desquels, on trouve bien sûr la Chine, qui promet une aide de 12,7 milliards d'euros et a déjà envoyé sur place une équipe de 82 secouristes. L'Inde a elle aussi lancé son opération Brahma en expédiant plusieurs avions chargés de 15 tonnes de matériel de première nécessité, couvertures, produits d'hygiène, tentes, nourriture. Assez loin derrière, l'Union européenne s'engage sur 2,5 millions d'euros d'aide d'urgence. Donald Trump assure que les États-Unis vont aider car la situation est terrible, sans pour l'instant s'engager sur un montant précis, alors que les effets des coupes budgétaires de l'aide humanitaire en Birmanie commençaient déjà à se faire sentir avant le tremblement de terre. Des annonces qui reflètent les équilibres géopolitiques de la région où la Chine et l'Inde s'affirment désormais comme les puissances dominantes.
Merci Carole Izzo du service international de RFI. J'ajoute que ce séisme a frappé toutes les régions de l'Asie du Sud-Est à Bangkok, la capitale de la Thaïlande voisine. Au moins 9 personnes sont décédées et les secours sont toujours à la recherche de survivants. Après l'effondrement d'un gratte-ciel en construction, 47 personnes sont coincées sous les décombres ou portées disparues. Une véritable démonstration de force à Istanbul où une très importante manifestation est en cours à l'appel du principal parti d'opposition, le CHP, parti du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrêté et emprisonné. C'était le principal opposant du président turc Recep Tayyip Erdogan. Des milliers de personnes sont donc rassemblées et pour l'instant tout se déroule sans heurts. Levent, habitant d'Istanbul, est dans la manifestation et il veut préserver la démocratie dans son pays.
Je suis ici pour défendre la démocratie et la justice. La démocratie est en danger parce qu'on est en train de nous ôter la liberté de vote. Parce que la justice et la loi sont des instruments aux mains d'une seule personne. Si tous les pouvoirs et si les médias ne sont plus libres, alors ce n'est plus une démocratie. Nous sommes ici aussi pour défendre Ekrem İmamoğlu parce qu'il est innocent. Ils l'ont emprisonné parce qu'il allait gagner les élections et parce qu'il est proche du peuple. Le pouvoir a peur de nous et il a encore plus peur d'Ekrem İmamoğlu.
Levent, donc un manifestant à Istanbul, interrogé par notre envoyé spécial sur place, Daniel Valo. La Russie poursuit son avancée sur le front ukrainien. Moscou revendique la capture de 2 nouveaux villages dans l'est et le sud de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky rapporte de son côté que la Russie a lancé plus de 170 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, frappant des cibles dans plusieurs régions du pays. Cela fait 6 jours qu'ils n'ont plus donné de nouvelles. Des secouristes palestiniens manquent à l'appel à Gaza et la préoccupation du Croissant Rouge augmente sur place. Le Hamas a lui aussi réagi. Amira Swilem à Ramallah revient sur cette affaire.
Où sont-ils ? C'est la question que posent la défense civile et le Croissant Rouge palestinien, alors que 14 secouristes manquent à l'appel. En opération dans la banlieue de Rafah dimanche dernier, ils n'ont plus donné signe de vie depuis près d'une semaine. Hier, la défense civile de Gaza a dit avoir retrouvé le corps du chef de son équipe déployé sur place. Quelques heures plus tard, l'armée israélienne a reconnu avoir tiré sur des ambulances dimanche dernier. Dans un communiqué, l'armée précise qu'elle ciblait ce jour-là des véhicules occupés, je cite, « par des terroristes du Hamas ». Une opération suivie d'autres frappes contre des véhicules jugés suspects dans des ambulances et des camions de pompiers. Israël accuse les combattants du Hamas d'utiliser les ambulances à des fins militaires. Le Hamas, de son côté, a dénoncé ce qu'il appelle un massacre brutal et délibéré qu'il assimile à un crime de guerre. Ce matin, le Croissant Rouge dit être toujours interdit de mener des opérations de recherche des équipes médicales disparues. Amira Swilem, Ramallah. RFI.
Et nouveau bilan à Gaza, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas indique que 921 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens il y a 10 jours. Le bilan total depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien en octobre de 2023 se monte désormais à plus de 50 200 morts dans la bande de Gaza. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara a été gracié pour raison de santé par le chef de la junte en Guinée à l'issue d'un procès historique qui avait duré près de 2 ans. Moussa Dadis Camara avait été condamné en août 2024 à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Les États-Unis veulent exporter leur décret anti-diversité dans les entreprises françaises. Plusieurs dizaines d'entre elles ont reçu une lettre de l'ambassade américaine à Paris, leur demandant de renoncer à toute forme de discrimination positive si elles voulaient continuer à travailler avec le gouvernement américain. Claire Fage, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de nous rejoindre en studio. Le courrier publié dans la presse française a déjà fait réagir le ministre français de l'économie.
Oui, la lettre de l'ambassade américaine avertit les entreprises françaises destinataires. Le décret 1473 concernant, je cite, « la fin de la discrimination illégale signée par le président Trump » s'applique également obligatoirement à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Le courrier est accompagné d'un formulaire qui doit être renvoyé dans les 5 jours où l'entreprise française doit certifier qu'elle ne propose plus de programme diversité, équité, inclusion et qu'elle est en conformité avec, je cite, toutes les lois fédérales anti-discrimination, ce qui est important, poursuit la lettre, pour les décisions de paiement du gouvernement des États-Unis. Alors, dans l'entourage du ministère français de l'économie sondé par l'AFP, on estime que cette pratique reflète les valeurs du nouveau gouvernement américain. Ce ne sont pas les nôtres et le ministre le rappellera à ses homologues au sein du gouvernement américain. Cette mise en demeure américaine n'en jette pas moins un froid parmi les fournisseurs français du gouvernement des États-Unis qui vont du secteur de l'aviation et de la défense aux infrastructures et aux services de conseil.
Merci beaucoup Claire Fage. J'ajoute qu'en France, Mounir Bouta, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat il y a 4 ans de son épouse, Chahinez Daoud à Mérignac près de Bordeaux. Le 4 mai 2021, ce maçon avait tiré au fusil dans les jambes de la victime. Avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu, elle était décédée, brûlée vive. Dans la suite d'RFI Midi, nous nous rendrons au Japon avec un reportage de Bruno Duval où le pays a accueilli un nombre record de touristes. Une manne financière importante pour le pays qui a décidé d'appliquer des tarifs plus élevés pour les étrangers que pour les Japonais dans les restaurants, musées et autres lieux touristiques. Une mesure discriminatoire qui ne fait pas l'unanimité. Et dans quelques minutes, nous retrouverons l'écrivain Mathieu Simonet, spécialiste des nuages, à l'occasion de la Journée internationale des nuages qu'il a créée. Les nuages sont beaux, ils ont inspiré de nombreux peintres, mais ils jouent aussi un rôle important dans le climat mondial. L'ensensement pourrait faire pleuvoir sur son territoire est connu et utilisé, Mais les conséquences restent floues. Nous aborderons avec Mathieu Simonet les enjeux sanitaires, environnementaux, climatiques et géopolitiques liés à la manipulation des nuages. Marina Milzarek s'intéressera aux cyberattaques qui frappent le secteur maritime. Les navires sont des proies qui peuvent être faciles, alors les mesures de protection en matière de sécurité informatique deviennent indispensables pour les bateaux qui croisent dans les mers et océans du monde. Une page culture avec la pièce de Tamara El Saadi intitulée Terre, qui se produit en France en ce moment. Un spectacle choral qui interroge une adolescente qui ne parvient plus à penser à son avenir. Mais tout de suite, les sports. Et c'est Olivier Pron qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, du football pour commencer avec la 27e journée de Ligue 1 en France qui se poursuit ce samedi.
Après le succès de Strasbourg sur Lyon hier soir en ouverture 4-2, la lutte pour l'Europe, Olivier, s'intensifie aujourd'hui. Nice 4e, 1 point devant les Alsaciens, 2 devant l'OL. Nice se déplace à Monaco 3e à 20h05, temps universel. Juste avant, le PSG sera à Saint-Etienne 17e et avant-dernier. Les Parisiens qui pourraient être sacrés pour la 13e fois de leur histoire dès ce soir. En cas de nul dans le derby de la Côte d'Azur et de contre-performance de Marseille à Reims en fin d'après-midi, l'OM, cher à votre cœur, est à 19 longueurs du leader invaincu après 2 défaites. Les Rémois, eux, sont dans une longue et lente descente aux enfers, plus un succès en championnat depuis le 10 novembre dernier, une éternité, 15 matchs disputés depuis, 9 défaites, 6 nuls. Mais leur entraîneur, le malien Samba Diawara, répète façon méthode Coué que face à des Marseillais qui avaient perdu en Champagne la saison passée, le duel n'est pas perdu d'avance.
On ne part pas vaincu, parce qu'on s'attend souvent à ce que l'ogre marseillais ou l'ogre parisien vienne croquer le stade de Reims qui est mal en point. Mais tout comme je vous l'avais dit il y a 10 mois que c'était possible de battre Marseille, et ça a été le cas, on est capable de battre Marseille, on est capable de se relancer contre l'OM. Ils ont perdu des points qui les mettent à portée de tir de certaines autres équipes, donc forcément ils ont besoin d'assurer leur deuxième place. Donc on s'attend à souffrir, mais 15e de Ligue 1, tu souffres à tous les matchs. Donc oui, on va souffrir, mais on ne sera pas des victimes non plus.
Pas des victimes, mais Reims souffre depuis un long moment. Reims OM, 16h, temps universel. Pour le reste, pas de grosses affiches, Olivier, ailleurs en Europe ce week-end. Ce soir, le Real Madrid, 2e de Liga, reçoit Leganés, le 18e. Et puis en Allemagne, le Bayer Leverkusen, champion en titre, est revenu hier à 3 longueurs du Bayern en battant Bochum 3-1. Les Bavarois reçoivent le mal classé Sankt Pauli à 14h30, temps universel.
Allez, on parle du ballon ovale après le ballon rond, du rugby féminin à présent. Avec la France qui s'apprête à disputer son 2e match dans le tournoi des Six Nations.
Ouais, qui a succédé à celui des hommes. Victorieuse d'entrée de jeu en Irlande, les Bleus enchaînent avec la réception de l'Écosse à La Rochelle, ville du club masculin champion d'Europe en titre. Mais tout aussi intéressé par les performances des dames, la preuve. 17 000 personnes sont attendues au stade Marcel de Flandre cet après-midi. Une affluence qui ravit évidemment la co-capitaine tricolore Manae Feleu.
Ça fait toujours plaisir, ça montre que le rugby féminin commence à faire parler de lui et chaque année on voit que c'est de mieux en mieux et ça fait vraiment plaisir de voir que ce qu'on fait sur le terrain donne envie aux gens de venir et que ce qu'on fait aussi au quotidien paye un peu et qu'on arrive à faire parler du rugby féminin de plus en plus. Donc ça fait vraiment plaisir et on a hâte de vivre des moments comme samedi de plus en plus. La Rochelle, c'est quand même un public qui est connu pour être vraiment incroyable, donc on a juste hâte de retrouver le public français. En plus, c'est notre premier match à la maison, donc je pense qu'on est impatiente.
France-Écosse, coup d'envoi 13h temps universel, également dans l'après-midi, Galles-Angleterre. Un dernier mot de tennis avec l'affiche de la finale homme du tournoi de Miami demain dimanche. Novak Djokovic, à presque 38 ans, en sera de cette finale pour viser un 100e titre en carrière. Après avoir écarté Dimitrov le Bulgare, il sera opposé à la relève, le Tchèque Mensik, 19 ans, 54e mondial, et victorieux, lui, de l'Américain Taylor Fritz.
Merci beaucoup Olivier Pron, on vous laisse suivre ce joli programme sportif de ce week-end. Ils sont blancs ou gris, légers ou menaçants, avec diverses formes. Ils flottent au-dessus de notre tête, les nuages. Et aujourd'hui, c'est la Journée internationale des nuages. Et les nuages sont très importants pour notre écosystème. Ils jouent un rôle essentiel dans notre environnement. Nous allons y revenir en détail. Mathieu Simonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le créateur de cette journée, ancien avocat, écrivain, vous êtes Monsieur Nuage, on pourrait dire. Alors pour commencer, pourquoi avoir créé en France cette journée internationale des nuages ?
L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a 50 pays qui manipulent les nuages pour essayer de les faire pleuvoir plus rapidement, ce qui pose plein d'enjeux, notamment climatiques ou sanitaires et géopolitiques, et il n'y a pas de loi. Enfin, il n'y a quasiment aucune loi. Et donc, j'avais envie de faire une action poétique pour avoir une influence sur la loi. Au lieu de faire une manifestation, je voulais faire de la poésie, mais qui soit efficace. Et donc, l'idée, ça a été de créer cette journée internationale des nuages pour demander à tout le monde de s'allonger sur l'herbe aujourd'hui, de regarder les nuages, d'écrire ce que l'on voit. Et je considère que tous ces écrits, c'est une pétition poétique qui me donne du poids pour demander une réglementation sur les nuages.
Alors justement, parlons-en tout de suite de cette législation internationale. Il existe un encadrement juridique pour les États. Certains pays parlent de vol de nuages. Qu'est-ce qu'il existe exactement concernant cette législation ?
Alors, il existe quasiment rien. C'est pourquoi quasiment tous les pays peuvent essayer d'ensemencer les nuages qui sont au-dessus de leur territoire. Il y a une seule exception, c'est que les Américains avaient ensemencé les nuages dans les années 60 pendant la guerre du Vietnam pour transformer les nuages en armes de guerre. Lorsque ça s'est su grâce à un journaliste, ça a créé un gros scandale et l'ONU a fait une convention en 1976 qui dit que maintenant on n'a plus le droit d'utiliser les nuages pour en faire une arme de guerre. Et cette convention a été signée par de nombreux pays, mais pas par la France.
Et pourquoi pas par la France?
Alors, on ne sait pas trop, parce que pendant très longtemps, on n'a pas vraiment eu d'informations. La seule information que j'ai eue relativement récemment, ce serait que la France aurait peur, en signant cette convention, qu'elle ne puisse plus utiliser l'arme nucléaire. Ce à quoi, à mon sens, on peut répondre deux choses. Un, la plupart des pays qui ont l'arme nucléaire ont signé cette convention de 76. Et deuxièmement, quand on signe une convention, on peut toujours mettre des clauses d'interprétation.
Alors, si on parle d'un point de vue climatique, on estime aujourd'hui, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'une cinquantaine de pays manipulent volontairement les nuages pour faire tomber de la pluie. C'est ce qu'on appelle donc l'ensemencement des nuages. Ce n'est pas nouveau, mais alors, est-ce que c'est efficace contre la sécheresse ?
Alors, effectivement, quand on ensemence les nuages, ça peut être pour en faire une arme de guerre, comme je le disais tout à l'heure, ou pour lutter contre la sécheresse. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Donc, les scientifiques disent que c'est impossible d'avoir la preuve que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, notamment parce qu'il faudrait avoir deux nuages identiques pour le vérifier. Et donc, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on ensemence énormément sans savoir si ça marche. Et lorsque on ensemence des nuages pour un enjeu de sécheresse, là, il n'y a aucune loi, ça n'est pas du tout réglementé.
Et quel est le rôle des nuages là-dessus, si on regarde bien, dans le réchauffement climatique ?
Alors, les nuages peuvent, par rapport au réchauffement climatique, avoir deux fonctions. Ils peuvent à la fois réchauffer le climat et aussi le refroidir. C'est-à-dire, il y a deux actions complémentaires. Les scientifiques disent que globalement, les nuages ont plutôt tendance à refroidir la chaleur, mais on ne connaît pas trop l'évolution dans le temps avec le réchauffement climatique quel sera le rôle des nuages dans les prochaines décennies. Donc il y a beaucoup d'inconnus sur le rôle des nuages. On sait que les nuages ont un rôle très important, mais il y a beaucoup d'inconnus encore.
Alors il y a différentes techniques pour faire l'ensemencement, je vais y arriver. quelles sont-elles ces différentes techniques ?
Alors, on peut soit, il y a effectivement plusieurs techniques, celle qui est la plus utilisée, c'est d'introduire de l'iodure d'argent. Donc, c'est un produit qu'on introduit dans les nuages, parce que pour qu'il y ait des gouttes de pluie, il faut pas uniquement de la vapeur d'eau, il faut une espèce de petite graine, un petit noyau de condensation autour duquel la vapeur va s'agglomérer, et plus elle s'agglomère, plus elle grossit, et quand elle atteint un certain poids, la pluie va pouvoir tomber. Donc, pour mettre de l'iodure d'argent, il y a plein de techniques possibles. On peut soit envoyer de l'iodure d'argent par avion, soit avec des petites fusées. Et en France, on utilise des générateurs au sol. Donc, ce sont des boîtes qui sont posées au sol. On fait chauffer ces boîtes et il y a une cheminée qui permet à l'iodure d'argent de s'évaporer jusqu'au nuage.
Mathieu Simonet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes écrivain, ancien avocat et le créateur de cette journée internationale des nuages, auteur aussi du livre « La fin des nuages » paru chez Julliard. Passez une excellente journée internationale.
Merci beaucoup, vous aussi.
On prend maintenant la direction du Japon, qui l'an dernier a accueilli un nombre record de 37 millions de touristes étrangers. C'est du jamais vu, et c'est en grande partie dû au cours du yen, qui depuis 2 ans a dégringolé à un niveau plancher historiquement bas. Mais, revers de la médaille au pays du soleil levant, le surtourisme pose de plus en plus de problèmes, à Kyoto notamment, ainsi que dans les localités proches du mont Fuji. Et puis, depuis l'été dernier, dans l'archipel, une pratique se répand, qu'on n'imagine pas forcément dans d'autres pays, les tarifs différenciés en fonction de la nationalité des clients, des tarifs discriminatoires, donc, dans un nombre grandissant de restaurants, d'hôtels ou de musées, par exemple. Les touristes étrangers sont priés de payer davantage que les Japonais. Cette évolution ne fait pas l'unanimité. À Tokyo, Bruno Duval.
L'an dernier, les touristes étrangers venus au Japon y ont dépensé la somme faramineuse de 8 000 milliards de yens, près de 50 milliards d'euros. Une manne providentielle donc pour une économie nationale qui ne va pas bien. Pour autant, Kotaro ne culpabilise pas d'avoir instauré des tarifs différenciés. Dans son restaurant, les clients étrangers payent 10% de plus que les Japonais. Car, ne parlant pas un mot d'anglais, il a dû engager une serveuse bilingue, ainsi que faire traduire et imprimer des menus en plusieurs langues. Et puis, à ses yeux, ce système offre un grand avantage.
Sans cette petite contribution que je demande gentiment aux clients étrangers, j'aurais dû répercuter la hausse du prix des produits alimentaires sur mes tarifs et donc proposer des menus moins abordables au détriment de mes clients japonais.
À Asakusa, le quartier le plus touristique de Tokyo, les avis divergent.
En termes d'hospitalité, je trouve ça moyen. On devrait remercier, pas pénaliser tous ces touristes qui nous font l'honneur de leur visite.
Quelques yens, en plus ou en moins, ils s'en fichent. Ils roulent sur l'or grâce au taux de change.
Je ne suis pas du tout sûre que les Japonais en vacances à l'étranger apprécieraient de devoir payer plus que les locaux.
Trier les clients en fonction de leur origine, on a beau dire, mais au bout du compte, cela relève du délit de faciès. C'est très délicat. Le cliché de l'infinie courtoisie japonaise va en prendre un coup.
Ces touristes étrangers, tout autant, sont partagés.
Si cela devient vraiment difficile pour les Japonais en raison de la hausse du coût de la vie, c'est peut-être une bonne idée de pratiquer de tels tarifs différenciés.
Ces prix majorés pour les visiteurs étrangers, selon moi, automatiquement, ça va les dissuader. Certains vont trouver inéquitable de devoir payer plus.
Certains commerçants vont encore plus loin. À la devanture de ce minuscule restaurant de nouilles, par exemple, un écriteau rédigé en anglais informe que l'accès est réservé aux clients parlant le japonais. Son gérant se justifie.
Je suis nul en langues étrangères, je n'ai pas les moyens d'engager du personnel bilingue. Et je suis tout seul à la cuisine et au service. Donc, les dialogues improbables en français, en espagnol ou en swahili via des applis comme Google Trad, désolé mais non merci. Je suis beaucoup trop occupé pour ça.
Le droit japonais tolère de telles restrictions d'accès fondées sur la nationalité ou la langue, considérant qu'elles relèvent de la liberté commerciale. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Il est 13h22 à Paris, 8h22 à Port-au-Prince.
RFI. Le Monde à midi.
Les cyberattaques contre les secteurs privés et publics ont augmenté de 15% selon l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Parallèlement, en France, la loi sur la sécurité des transports est en discussion au Sénat. Un secteur particulièrement visé par les cyberattaques, le trafic maritime. Marina Milzarek.
Le problème de la sécurité informatique, c'est qu'on en parle beaucoup sans trop savoir de quoi il s'agit. Dans son dernier rapport, le cabinet britannique CyberHall estime qu'un armateur sur 6 comprend exactement ce qu'est un navire cybersécurisé à la livraison. Pourtant, comme l'explique Stéphane Fronsac, ancien chef de la cellule nationale de sécurité maritime, parce qu'ils sont chargés de matières stratégiques, des produits dangereux, des marchandises, des combustibles, donc un haut niveau de responsabilité, eh bien, sans bouclier efficace, les navires sont des proies fragiles.
Il faut comprendre que la non prise en compte du risque cyber, il doit être non pas l'apanage uniquement du capitaine du navire et de son officier cyber, quand ils en disposent, mais également de tous les personnels du navire. Cette attaque n'est pas nécessairement sophistiquée. Elle a pour objet de chiffrer l'intégralité des fichiers numériques. Le seul moyen pour récupérer les précieuses données, ça consiste à payer une rançon. Il ne faut jamais payer la rançon. la victime n'ayant pas l'assurance de récupérer la clé de déchiffrement une fois payée la rançon. Et elle peut même voir d'ailleurs son système informatique à nouveau compromis, invisible au radar. Vous imaginez alors le risque majeur que ça puisse représenter en matière de collision par exemple.
À bord, les appareils sont connectés. Il faut donc apprendre à gérer les connexions. C'est ce que l'on appelle l'hygiène informatique. Alors pour Yrieix Denis, spécialiste du piratage informatique, un autre pare-feu a prouvé son efficacité. Améliorer la vigilance de tous les sous-traitants, les équipementiers, les entrepôts, les chantiers navals.
Tous les acteurs d'entreprises, petites et grandes, qui participent de la construction des navires, mais aussi de leur entretien, de leur équipement, touchés par la grande cybercriminalité industrialisée qui vise large et qui va finir par atteindre des acteurs qui, en réalité, sont des maillons faibles qui ont une très grande incidence sur ce secteur. Prenons un exemple très récent, en 2023, un fournisseur a été touché par un rançongiciel, et donc ce sont 70 de ses clients qui ont été touchés, et au final plus de 1000 navires.
Preuve que le gouvernement français en tout cas prend le risque au sérieux, le 18 septembre prochain, des pirates vont paralyser les ports, les entrepôts, toutes les infrastructures du pays. Rassurez-vous, ce sera pour de faux. En revanche, les réflexes et les précautions à prendre, eux, seront bien réels. Cet exercice de simulation est ouvert à toutes les organisations, il porte le nom de Rempart 25.
On termine par de la culture avec sa dernière pièce Terre de Tamara El-Saadi. Elle se penche sur l'enfance sacrifiée sur l'autel des puissants. Deux héroïnes traversent le Russie. Antigone, la rebelle mythique, est face à une enfant placée en France. Dans le cadre d'une longue tournée, Terre se joue en ce moment au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, en région parisienne. Muriel Mahalouf.
Enfant, infant, en latin, signifie celui qui ne parle pas. C'est par cette phrase que s'ouvre la pièce Terre de Tamara El-Saadi sur l'enfance.
La question de la voix de l'enfant qu'on n'entend pas, qui est inaudible, m'a toujours un peu obsédée. La question des silences au théâtre et en soi est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais notamment de l'endroit de l'écoute de l'enfant et aussi de comment on silencie l'enfant et quelles sont les conséquences sur l'humanité.
Deux héroïnes se font face dans la pièce. Eden, une enfant placée, ballottée d'un endroit à l'autre, au gré d'une administration absurde, crie et se débat. Antigone est muette. Son silence est aussi grand que la tyrannie du roi Créon, qui veut l'empêcher d'enterrer son frère Polynice.
Antigone, c'est un personnage qui m'accompagne depuis que je suis adolescente. J'avais l'impression que je la comprenais, quoi. Puis il s'avère qu'elle est restée à nos 14 ans et que moi j'ai grandi. Donc je la regarde maintenant avec mes yeux d'adulte et forcément j'ai plus le même regard sur elle. Et la démarche était de un peu questionner les perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui sur cette figure-là. Et notamment des jeunesses qui sont victimes de ségrégation et d'oppression, à la fois sur le sol français mais initialement aussi dans les seuls territoires occupés et victimes de colonialisme de l'ère contemporaine, à savoir la Palestine.
Quand ils sont venus prendre ma maison et qu'ils m'ont chassé de Thèbes, j'ai caché la clé. Demain, j'ouvrirai la porte et on rattrapera le temps perdu. On me fait porter la culpabilité d'une histoire qui n'est pas la mienne.
Ainsi, la tragédie d'Antigone est traversée par celle actuelle de la Palestine et de ses enfants massacrés. Et quand les mots lui manquent, Tamara El-Saadi fait appel à la danse.
Le corps et le silence des corps, leur mouvement, en fait, est capable de traduire bien plus que les mots. D'où cette nécessité de travailler avec Sonia Al-Kadir, qui est la chorégraphe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. On travaille ensemble et je dis, voilà, en fait, sur cette scène-là, ce que j'ai besoin de raconter sur ça, ben en fait, j'ai pas les mots, mais toi, tu vas avoir les gestes. Alors, aide-moi. Et c'est comme ça qu'on travaille.
La danse, mais aussi la musique est très présente. Et le chant se mêle au jeu des acteurs, se réduisant parfois à un mot, comme Biladi, mon pays, scandé à l'infini, telle une prière.
Biladi. Voilà, c'était le reportage de Muriel Mahalouf à propos de la dernière pièce de Tamara El-Saadi, qui se joue actuellement en France, et notamment au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, en région parisienne.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forrest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Jupiter et Noquest débarquent avec Ekoya, un album trépidant, turbulent, bouillonnant qui fait briller la richesse culturelle du Congo. Fusionnant les traditions de 450 ethnies et des influences mondiales, Jupiter Bokunji défie les clichés et nous invite à sa croisade humaniste. À découvrir en concert le 6 avril dans le cadre du festival Banlieue Bleue et tout à l'heure avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires à 13h30 TU.
RFI.